France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Tom Umdenstock, Fanny Richet, Inès Bouffartig, Sébastien et Loïc Antoine, réalisé par Margot Page et à la technique c'est Grégory Wallon. On commence une série consacrée aux réponses des États face aux violences sexuelles et sexistes. On parlera demain de l'Allemagne, où une loi fédérale a été votée censée rendre la vie des femmes plus sûre. Mercredi, de la Corée du Sud, où le masculinisme est au cœur d'une bataille culturelle et politique. Jeudi, du Canada, en plein examen de conscience face aux meurtres subis par les femmes autochtones. Aujourd'hui, au Mexique, une femme est en première ligne. C'est la présidente Claudia Sheinbaum elle-même, victime par ailleurs d'une agression début novembre.
J'ai décidé de porter plainte parce que ça m'est arrivé à moi en tant que femme, mais ça arrive à toutes les femmes dans notre pays. Et je me suis dit, si je ne porte pas plainte, quel message j'envoie à toutes les Mexicaines ?
Nous allons généraliser la pénalisation des agressions et du harcèlement sexuel dans tout le pays, car ils ne sont pas sanctionnés de la même manière dans tous les États de la République. Nous estimons qu'il est très important de clarifier la loi sur ce point.
Ce projet d'harmonisation légale est important, mais la loi n'est pas le problème. Le problème, c'est l'impunité. Et il faut faire ce travail avec les hommes, faire de vraies campagnes d'information pour eux.
Des mères qui cherchent leurs filles, des villes couvertes d'avis de disparition, des déserts d'os, des lacs qui dévorent les femmes, des femmes mortes qui surgissent des fleuves, des fossés, des sables du désert, des corps jetés à la poubelle dans des sacs noirs, de la pâtée pour chiens, des femmes jetables, des femmes étranglées, décapitées, des femmes démembrées, des femmes violées. Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes, écrit la jeune journaliste Dalia de la Cerda dans Chienne de garde. Selon les chiffres officiels au Mexique, 3000 femmes sont assassinées chaque année. Elles sont même surtuées, avec pour toutes des violences avant leur mort ou même après, profanées par le feu ou par l'acide. Alors quand Claudia Sheinbaum se fait agresser en pleine rue à Mexico par un homme alcoolisé qui se permet de lui toucher d'abord l'épaule, puis les seins et les hanches, la présidente du Mexique a bien conscience qu'elle était protégée par ses gardes du corps, quelle que soit d'ailleurs l'intention initiale de son agresseur qui n'a pas l'air armé, et qu'elle peut porter plainte et s'assurer que celle-ci sera bel et bien suivie. Pour des milliers d'autres femmes mexicaines, la parole est remise en cause, les agressions sont minimisées et quand elles sont tuées, aucun discours officiel ne leur rend hommage. Parfois, aucun cortège ne les accompagne jusqu'à la tombe. Après un féminicide, une enquête n'est ouverte que dans 28% des cas. Alors qu'a changé ou pas l'élection de Claudia Sheinbaum en juin 2024 ? A-t-elle réinstauré une forme de confiance entre les femmes et les institutions, police, justice, censées les défendre, mais trop souvent inertes, voire violentes elles-mêmes. Nous en parlons avec nos deux invités. Il est 3h04 à Ciudad Juárez, au Mexique. Le jour se lève dans moins de 4 heures sur les centaines de croix roses dessinées au mur ou plantées pour marquer les lieux où des femmes ont été tuées. Bonjour Lorraine Descartes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc depuis Ciudad Juárez, vous êtes journaliste et autrice du livre « Nos absentes, à l'origine des féminicides » paru l'année dernière aux éditions du Seuil. Merci d'être avec nous, ainsi que vous Jacqueline Prado-Prado. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université Sorbonne Nouvelle et chercheuse au CREDA. Votre thèse porte sur la mise en place des politiques publiques face aux féminicides au Mexique, dans un état en particulier dans le Nord qui n'est pas celui de Ciudad Juárez. Et ce sera intéressant aussi de faire des comparaisons. Alors l'une et l'autre, vous connaissez bien de l'intérieur les mouvements féministes au Mexique, leur combat d'abord et avant tout contre les féminicides, contre l'impunité de leurs auteurs. Est-ce qu'il est intéressant, Jacqueline Prado-Prado, de dire un mot de la façon dont a été commentée dans ces milieux et l'agression physique de Claudia Sheinbaum en pleine rue et son choix de porter plainte pour harcèlement sexuel?
Bien sûr. Bon, en général, il faut dire que tous les mouvements féministes, parce qu'il y en a beaucoup au Mexique, ont montré leur soutien à Claudia Sheinbaum, parce que, indépendamment de sa condition comme présidente, c'est-à-dire une femme à classe aisée et de l'élite politique la plus haute du pays, il faut quand même comprendre que ça reste une femme, et les femmes, peu importe leur niveau ou position sociale, politique, etc., peuvent être, comme on a vu avec son cas, victimes des violences sexistes et sexuelles. Donc, en général, à ce que j'ai pu voir, la réponse était très solidaire envers elle. Mais il y a eu, cependant, plusieurs groupes féministes qui ont décidé quand même de rappeler que les choses ne devraient pas être résolues une fois que c'est une femme de l'élite qui les a subies. C'est important quand même de garder toujours à l'esprit que les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet important, gravissime, et il ne faut pas attendre que ça nous arrive à nous-mêmes avant d'agir.
La vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On y voit la présidente qui avait décidé de se rendre du Palais National au ministère de l'Éducation nationale à Mexico. Ce sont deux bâtiments qui sont à 1 kilomètre l'un de l'autre. On voit un homme qui s'approche, qui tente de l'embrasser d'abord sur la joue, puis essaie de l'attraper par la taille et de lui toucher la poitrine. Un homme alcoolisé qui s'en était pris à d'autres femmes le même jour.
Aujourd'hui, l'agression sexuelle est pénalisée dans la métropole de Mexico. Mais ce n'est pas le cas dans tous les États de notre République. Ma réflexion, c'est de me dire, si ce que j'ai subi n'est pas qualifié de crime dans la loi, alors même que c'est un crime, dans quelle situation je laisse mes concitoyennes? S'ils ont pu faire ça à une présidente, alors que risque-t-il de se passer pour toutes les jeunes femmes du pays?
Claudia Sheinbaum, le 5 novembre, après son agression, elle a dans la foulée annoncé plusieurs mesures, Jacqueline Prado-Prado, notamment elle s'est donné la mission d'identifier les États qui ne pénalisent pas encore le harcèlement de rue, mais pour ceux qui le pénalisent déjà, 19 États sur 32, est-ce que les plaintes déposées par les femmes aboutissent en général?
Oui, en fait, ça, c'est un des plus grands problèmes avec l'arrestation, parce qu'en fait, je dirais que le Mexique, c'est parmi les pays les plus avancés par rapport à la législation contre les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle par exemple que c'était le premier pays à reconnaître dans sa loi, pas forcément typifié pénalement, le féminicide. Mais ça reste que beaucoup, 20 ans après la typification du féminicide, 20 ans aussi après la création du premier parquet fédéré contre les violences sexistes et sexuelles, le pays reste avec énormément de cas de ce type de violences. Alors pourquoi c'est ça? C'est parce que la loi est très avancée, mais ça ne change pas grand-chose matériellement. Si les parquets chargés de ce type d'enquête, si les politiciens en charge et autorités en charge de les mettre en place ne font pas bien leur travail, mais surtout s'ils n'ont pas le budget pour pouvoir à la fois bien former les employés en charge de ce type de politique et aussi pour pouvoir financer les enquêtes, qui ça coûte très cher quand même, financer les matériaux technologiques, la technologie nécessaire pour bien faire, par exemple, cet examen d'ADN, pour identifier les traces, pour pouvoir étudier toutes les preuves trouvées sur les scènes des crimes. Alors, oui, la loi est très avancée, mais le Mexique est l'exemple parfait que la loi ne suffit pas pour changer les conditions des femmes.
Par exemple, il existe déjà, même si la présidente du Mexique dit a annoncé des bureaux de dépôt de plaintes spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles. Bon, en fait, il y en a déjà au Mexique. Elle annonce également, ou elle a créé à Mexico, un parquet spécialisé dans les affaires de féminicide, qui n'était peut-être pas tant de son initiative que vraiment sous pression militante. C'est ce que disent aujourd'hui les organisations féministes. Mais est-ce que ces parquets, quand ils existent, et il me semble, Lorraine Descartes, qu'il y en a à Ciudad Juárez, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de travailler?
Oui, effectivement, il y a un parquet qui est dédié aux violences faites aux femmes et aux affaires en ce qui concerne les questions de genre et de la famille. Et il a été créé aussi assez récemment à Juarez, il a été créé en 2022. J'abonde exactement ce que vous venez de dire, Jacqueline, c'est que en fait les employés sont surchargés en fait de dossiers et ils n'ont pas la capacité matérielle de traiter et d'aller en profondeur dans chaque affaire. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit en introduction sur le fait que tous les féminicides n'étaient pas forcément ensuite investigués comme féminicides. Vous avez cité le chiffre de 28%, environ 1 sur 5. Il me semble que c'est effectivement les chiffres les plus récents qui datent de 2024. Et ça, c'est à l'échelle du Mexique. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans le cas de Juarez. On pourra peut-être en reparler un peu plus tard avec des exemples précis de féminicides, de femmes qui ont été assassinées. Et pour autant, ça n'a pas entraîné une enquête de féminicide pour comprendre et élucider le crime.
Aujourd'hui, on estime à 25... Enfin, c'est pas on estime, on sait qu'il y a 25 000 plaintes enregistrées au Mexique depuis le début de l'année. Alors, Claudia Sheinbaum dit qu'il faut un enregistrement de ces plaintes rapides, efficaces et qui permettent de rendre véritablement justice. On va voir si elle met vraiment les moyens dans ces institutions judiciaires que vous dites surchargées. À Ciudad Juarez, chaque enquêteur, par exemple, a 1 000 à 1 500 dossiers à traiter à lui seul. Claudia Sheinbaum, elle avait aussi pris des décisions assez inattendues en tant que maire de Mexico et qui avait fini par hériter les militantes féministes, par exemple, lors des grandes mobilisations du 8 mars, lors des journées internationales de la femme. Elle avait uniquement mis sur le terrain des policières, des femmes policiers sans armes, avec le rôle de garantir la sécurité des cortèges, mais aussi de contenir les éventuels débordements. Est-ce que ça avait changé quoi que ce soit, Jacqueline Prado-Prado? Comment en avaient parlé à l'époque les organisations féministes? C'était une vraie mesure qui avait apporté quelque chose, ou ça restait symbolique et ces policières se montraient également dans une forme de répression comme leurs collègues masculins?
Bien sûr, c'est un sujet compliqué parce que je dirais que c'est surtout symbolique. Bien sûr, elles ne sont pas armées, mais ça reste des femmes entraînées pour protéger les intérêts de l'État. Et il faut le dire franchement, les intérêts de l'État, c'est quand même qu'il n'y ait pas de conflits, surtout de conflits contre eux. Donc, il faut rappeler que Claudia Sheinbaum, bien que se considère une femme féministe, elle a pris des décisions en faveur des femmes. Et c'est aussi montré hostile envers les féministes à plusieurs reprises. Je rappelle un cas pour la grève du 8 mars de 2020, si je ne me trompe pas, comme quoi ça a été découvert qu'il y a eu une enquête de la part du parquet général de Mexico pendant qu'il était la maire de Mexico. Et il y a eu exactement 13 femmes féministes qui ont été enquêtées par le parquet et parce qu'ils accusaient des violences. Et aussi, il a dit dans des discours publics comme quoi elle était féministe, mais elle n'était pas violente. Sous-entendant que les féministes qui font la grève sont violentes, ça fait partie d'une stratégie aussi pour les stigmatiser et aussi contre-attaquer toute critique valide ou pas, qui puisse avoir contre le gouvernement.
Si je ne me trompe pas, il s'agit, les féministes qu'elle avait considérées comme violentes et pour lesquelles elle avait fait ouvrir des enquêtes, c'était des personnes, des femmes qui avaient jeté des paillettes roses sur un représentant de l'État qui était venu leur parler. Enfin, c'était vraiment un jet de paillettes roses et ce qui avait été considéré comme une violence exercée à l'encontre d'un membre du gouvernement. Alors, depuis le début de son mandat comme présidente du Mexique, cette fois, et plus seulement maire de Mexico, Lorraine Descartes, est-ce que Claudia Sheinbaum est en lien avec les organisations féministes du Mexique et en l'occurrence, puisque vous êtes à Ciudad Juarez, de cette ville-là, des organisations nombreuses, structurées, avec une longue expérience de terrain? Est-ce qu'elle a pris des mesures qui lui ont été directement inspirées par ces organisations?
Oui, enfin, elle est en lien en tant que représentante du Mexique, mais il faut savoir que c'est un État qui a de nombreux États. Et par exemple, pour le cas de Juarez, c'est l'État de Chihuahua. Et c'est vrai que dans les discussions que j'ai avec les représentantes des ONG de lutte contre les féminicides ou les violences de genre en manière générale, on parle beaucoup plus du lien avec l'État de Chihuahua que le gouvernement central du Mexique. C'est lié, mais il faut quand même pas oublier que c'est un immense pays et qui a un fonctionnement un petit peu différent que celui de la France, par exemple.
Donc les militantes que vous rencontrez attendent davantage de l'État fédéré de Chihuahua que de l'État fédéral, et ce depuis toujours, même sous Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique?
Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que les militantes de Juarez, y compris en grande partie des familles de victimes, de victimes de féminicides ou de disparitions forcées, elles n'ont pas attendu en fait que les autorités leur disent quoi faire. C'est plutôt l'inverse. En fait, il y a eu à partir des années 80-90, toute une mobilisation qui est historique et incroyable et qui est en grande partie portée par les mères et les familles de victimes, en grande partie parce qu'on parle d'une ville qui est très ouvrière, d'ouvriers dans les usines locales, les maquiladoras, qui ont porté en fait ces revendications et qui ont forcé les autorités municipales, les autorités de l'État de Chihuahua, le Mexique ensuite à réagir. Et c'est vraiment, à mon avis, la force de ce mouvement historique, en tout cas de la lutte contre les féminicides. C'est vraiment un mouvement de terrain, un mouvement qui n'est pas porté par des institutions, et c'est né de la colère, du deuil qui s'est politisé de ces personnes en fait qui ont dit non à l'impunité. Je peux vous parler peut-être des premiers outils qui ont été créés à Juarez et qui sont ensuite développés dans le reste du pays, mais aussi dans le monde, y compris en France, sans qu'on le sache forcément. Par exemple, le premier registre de victimes de féminicide, il a commencé à être créé à Juarez en 1993, d'une manière très simple, en fait. C'est qu'il y a des militantes, notamment Esther Chavez-Cano, qui a fondé aussi le premier refuge pour victimes de violences conjugales à Juarez, qui ont commencé, en fait, à documenter... à découper en fait des articles de presse dans les journaux qui recensaient en fait des cas de meurtre. À l'époque, on parlait pas encore de féminicide en 93, mais des morts de Juarez, et en fait à les compiler pour savoir déjà en fait de combien de personnes de disparition ou de meurtre on parlait. Et c'est ce qui a donné lieu au premier registre de féminicide qui a ensuite été repris par des universitaires. Je pense à Julia Monares Fragoso à Juarez, et c'est étonnant de savoir que par exemple en France, c'est aussi à partir d'un premier registre militant qui avait été créé sur Facebook, pour le cas des féminicides conjugaux en France et ensuite des féminicides globaux par nous toutes, que la politisation du féminicide et la réaction des autorités s'est faite aussi. Il y a beaucoup de similarités en fait dans la façon dont la lutte elle s'est organisée d'abord à Juarez et au Mexique, et ensuite comment elle a pu se développer dans d'autres pays. Et l'un des piliers, c'est notamment le registre. Et il y a aussi la mobilisation des femmes. Je pense à un groupe qui devrait être, à mon avis, beaucoup plus... dont on devrait beaucoup plus se souvenir dans l'histoire, parce que c'est le premier mouvement de famille à s'être mobilisé, qui s'appelle Voces sin Eco, des voix sans écho, et qui est fondé à partir de 98, et notamment du meurtre d'une jeune ouvrière de 17 ans qui est jamais revenue de son shift à l'usine. Et plusieurs mères en fait se sont mobilisées autour de ça, et elles ont créé ce premier mouvement de famille de victimes, et qui revendiquait aussi le concept de féminicide dès 98. Et c'est un mouvement ouvrier. C'est assez incroyable de voir en fait tout ce qu'elles ont pu réaliser.
Un mouvement ouvrier qui considère d'emblée assez vite que l'État fait partie du problème plutôt que de la solution, en tout cas que coopérer avec l'État est pour beaucoup compliqué. Il faut d'abord que l'État mexicain, dit ses organisations, montre qu'il est volontaire dans la mise en place de services publics dignes de ce nom dans leur quartier, ne serait-ce que l'électricité dans les rues et la lutte contre l'impunité.
La manifestation del 9 de novembre fue para pedir justicia.
La manifestation du 9 novembre visait à réclamer justice pour le féminicide d'Alexis. Elle a été retrouvée dans des circonstances particulièrement cruelles aux abords de Cancún. Lors de cette manifestation, on ne scandait pas seulement le nom d'Alexis, mais aussi celui d'autres femmes victimes de féminicide. À peine 10 ou 15 minutes après mon arrivée, la police a ouvert le feu, d'abord en l'air, puis sur les personnes qui manifestaient. Moi, j'ai été touchée par balle à deux reprises. Les policiers étaient très violents et ils nous insultaient. Il disait « Voilà ce qui arrive quand on manifeste ». Et la pire chose que j'ai entendue, c'est quand ils nous ont dit qu'ils allaient nous laisser dans un état pire qu'Alexis.
Wendy Galarza, c'est une militante féministe, elle-même blessée par balle par la police en 2021, ici interrogée par Courrier International. Vous disiez tout à l'heure, et vous rappeliez Jacqueline Prado-Prado, à juste titre, que la présidente Claudia Sheinbaum, quand elle se fait harceler dans la rue, les organisations féministes leur apportent leur soutien parce que c'est une femme qui se fait agresser, et peu importe qu'elle soit présidente, qu'elle fasse partie de l'élite ou pas, même si elle rappelle toutes que tout toutes les femmes devraient être aussi bien protégées et pouvoir porter plainte comme l'a fait la présidente du Mexique très rapidement. Néanmoins, ce qu'on entend de la part de Wendy Galarza, le fait que l'État n'entende pas les plaintes pour féminicide, que très souvent les policiers ferment les yeux, accusent les femmes d'avoir traîné à une heure indue, par exemple, d'avoir été mal habillées ou d'autres arguments qui sont opposés. Est-ce que ça a créé une fracture dans les organisations féministes entre celles qui pensent qu'il faut d'abord défendre les femmes du peuple, les femmes ouvrières dont nous parlait Lorraine Descartes, notamment celles qui travaillent dans les maquiladoras, et les autres? Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce débat-là qui existe dans les organisations, notamment entre l'ancienne génération et la nouvelle?
Bien sûr. Je ne dirais pas que ça, c'est à la source d'une augmentation du mouvement féministe. Et si, parmi certaines femmes en politique qui se considèrent féministes, parce qu'il y a quand même une différence que j'invite à rappeler aussi, le mouvement féministe, en général, et surtout le plus grand, il se considère apartidiste. C'est-à-dire, bien sûr, ils sont à gauche, mais les féministes restent toujours critiques du parti en pouvoir s'il ne fait pas suffisamment d'actions pour les femmes.
Oui, elles ne sont pas liées à un parti.
Exactement. Même quand des partis politiques ont voulu mettre le standard féministe et se font critiquer par les féministes qu'il est très hypocrite parce que elle veut pas être liée à une cause ou à l'autre. Par contre, il y a des femmes politiciennes, par exemple récemment Claudia Sheinbaum, je crois qu'il y a 2 semaines a parlé des femmes féministes de droite et fait ses références à une politicienne du parti PRI, Alessandra de la Vega, Rojo de la Vega, qui est critique d'être féministe de droite. Et je dirais qu'il y a beaucoup de femmes politiques féministes qui utilisent le féminisme pour faire avancer leur carrière. Soit de façon... C'est pas forcément quelque chose qui porte préjudice pour la cause. Parfois si, parfois non. Par exemple, le féminicide est un crime au Mexique, en grande partie grâce à Marcela Lagarde, qui était une femme politique, mais avant tout une femme anthropologue, scientifique. Donc, vous voyez, c'est un peu mélangé. Mais généralement, les féministes gardent distance des partis politiques, non pas de la politique, parce que leur phrase phare, c'est l'intime est politique.
Alors, je ne sais pas dans quelle mesure certaines femmes utilisent le féminisme pour leur carrière, comme vous dites, Jacqueline Prado-Prado, parce que je ne sais pas auprès de qui ça peut faire mouche si les femmes ne sont pas dupes et que les hommes, eux, pour beaucoup au Mexique, sont plutôt dans une sorte de contre-discours aujourd'hui. Qui sont encore au Mexique? Je dis les hommes, bien sûr, je ne veux pas généraliser, mais il y a des forces contraires au Mexique qui persistent à ne pas vouloir traiter des féminicides en tant que tels. Pourquoi ce débat existe encore alors même que le Mexique, vous le disiez, est précurseur dans la façon qu'il a eu, par exemple, d'inscrire le féminicide en tant que tel, donc le meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, au code pénal en 2012. Qui porte cette rhétorique?
Oui, c'est ça qui est très intéressant. Il n'a pas une cause mobilisée en soi contre le féminicide. Contre le féminicide, je veux entendre comme un secteur de lutte. Par contre, ça, c'était ma théorie pour mon mémoire de recherche et c'est encore ma théorie actuellement. Il y a surtout une grande indifférence de la part du patriarcat, des hommes ou même des femmes patriarcales, parce qu'il y en a beaucoup, il faut le dire, qui ne s'intéressent pas aux sujets qui considèrent des femmes, des sujets genrés. Et ça reste toujours les femmes qui doivent porter ces causes en avance. Donc il y a beaucoup... C'est pas qu'ils ne peuvent pas dire explicitement... Le féminicide, c'est pas important ou il faut pas lutter contre. Bien sûr, il y a un discours un peu plus discret comme il y a plus d'homicides que de féminicides, les hommes meurent plus souvent, les hommes souffrent plus. Mais c'est difficile à dire explicitement. Moi, je considère que le féminicide, c'est pas une cause importante. Donc, il y a ce type de discours un peu mélangé, un peu caché. Et c'est ça. Je pense que ça se représente aussi dans les enquêtes. Ce n'est pas que la loi soit insuffisante, c'est que les gens sont indifférents.
Lorraine Descartes, sur la question de la transmission d'une lutte entre les militantes des années 90 dont vous nous parliez tout à l'heure et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu en constater à Ciudad Juárez aujourd'hui?
Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez et rappeler aussi le fait que si l'État a réagi, a mis en place une loi, etc., c'est aussi parce qu'il y a des militantes donc toujours aussi des mères de victimes qui ont porté devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme l'affaire du crime de leur fille. Je pense à l'affaire Campo du champ de coton, quand 8 dépouilles de femmes ont été retrouvées dans un champ de coton en 2001 à Juarez, et dont trois des mères de victimes sont allées jusque devant la Cour interaméricaine
des droits humains.
Droits humains, voilà. Notamment avec le soutien d'une ONG de Juarez qui s'appelle CEDIMAC et qui n'est pas forcément toujours médiatisée, mais qui est très efficace devant les tribunaux. Et ça a entraîné la condamnation de l'État mexicain et la reconnaissance du fait que l'État mexicain avait manqué à son devoir de protection et d'enquête. Et c'est aussi ça qui a pu entraîner notamment des évolutions dans la façon, par exemple, dont la police pouvait enquêter pour qu'ils puissent adopter une perspective de genre et que les affaires de crime ne soient pas analysées comme des affaires isolées, mais que parfois elles puissent être remises dans le contexte de la ville, de la dangerosité liée des affaires entre elles.
Ben, si vous le voulez bien, on va entendre à ce sujet une militante féministe mexicaine très connue au Mexique, Yadira Cortés Castillo, qui en parlait dans une série documentaire que j'invite tous et toutes à écouter, « Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes » de Pauline Chanu, réalisée par Marie Placet.
En 2001, on a été confronté au cas particulièrement tragique de Campo Algodonero. On a retrouvé les corps de 8 adolescentes dans un terrain vague. Les représentants du gouvernement ont dit que ces femmes qui avaient été tuées avaient leur part de responsabilité, qu'elles avaient obtenu ce qu'elles avaient cherché, entraînant dans les rues. Il tenait un discours totalement révoltant pour la famille des victimes. C'est là qu'on a décidé de porter le cas de Campo Algodonero devant la Cour de justice interaméricaine.
Evidenciando que el gobierno quiere culpabilizar a la víctima.
Nous avons prouvé que le gouvernement cherchait à culpabiliser les victimes et refusait de prendre ses responsabilités, qu'il n'avait rien fait pour les protéger et que l'État n'était pas capable de générer une société sûre pour les femmes. Dans le jugement qui a été rendu, il a été dit que toi, gouvernement mexicain, c'était bien ta responsabilité.
Lorraine Descartes, est-ce qu'on sait ce qu'a changé pour l'heure cette condamnation de l'État mexicain pour inaction en 2009 par la Cour interaméricaine des droits humains ?
Merci pour cet extrait qui est très fort. En fait, ça me fait penser à un cas sur lequel j'ai travaillé à Juarez et qui montre en fait qu'il y a des mécanismes de revictimisation des victimes de féminicide qui est toujours à l'œuvre. Je pense au féminicide d'Isabelle Cabañas qui a été tuée en 2020 à Juarez alors qu'elle sortait d'un bar avec ses amis. Elle était à bicyclette. Il y a une voiture qui s'est arrêtée dans la rue et qui l'a tuée de plusieurs balles. Isabelle Cabañas, elle est décédée dans l'espace public. Le meurtre a été filmé par une caméra de sécurité de la rue. Il y a une maison de retraite, en fait, dans la même rue. Et pour autant, 5 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour Isabelle Cabañas. Et ce que m'a raconté Reina, la mère d'Isabelle, c'est que il y a eu, en fait, une enquête du parquet pour supposer lien avec le narcotrafic, ce que dément totalement en fait la mère de Isabelle et toute la communauté artistique de Juarez qui était très proche de Isabelle Cabañas, c'était une artiste de Juarez. Et ça, en fait, c'est ce que dénoncent en fait plusieurs militantes féministes ou de la lutte contre les féminicides à Juarez. C'est de cette façon, en fait, dont parfois on peut maquiller en disant c'est lié au trafic organisé ou c'était une personne qui consommait de la drogue, ou parfois on peut aussi porter atteinte à la dignité, et ça devrait pas être une façon d'ailleurs de porter atteinte à la dignité en disant c'était des prostituées, etc. C'est un petit peu ce que Yadira vient d'expliquer dans l'extrait, pour en fait ne rien faire et laisser dormir en fait ces dossiers. Ça fait 5 ans que la mère de Isabelle Cabañas, Reina, va tous les mois au parquet pour demander des nouvelles, etc. Et quand je suis allée la voir il y a 2 semaines, là je suis repassée la voir, elle m'a raconté qu'ils avaient enfin enlevé la charge de drogue, que pour elle en fait c'était déjà une première victoire. et qu'ils allaient peut-être enfin investiguer dans une perspective de genre, et c'est-à-dire que ça puisse aussi être reconnu comme féminicide dans les chiffres officiels, parce qu'en l'état, ce qu'on disait tout à l'heure sur environ un cas de meurtre de femme sur cinq qui est classifié, typifié comme féminicide par la loi, par les autorités mexicaines, ça veut dire aussi que ça permet à l'état mexicain de produire un chiffre des féminicides qui est inférieur, et en l'occurrence là largement inférieur, à la réalité en fait des assassinats de femmes et de la violence auxquelles sont confrontées les femmes mexicaines. C'est une façon aussi de maquiller ces chiffres.
Et donc malgré le fait que la loi aujourd'hui au Mexique considère qu'un féminicide relève d'une faute de l'État parce qu'il n'a pas su rassembler les conditions nécessaires à ce que la victime puisse vivre en sécurité, eh bien il y a toujours un énorme nœud, Jacqueline Prado-Prado, d'énormes nœuds au pluriel pour que toutes les mesures prises et aussi l'idée que vous développiez l'une et l'autre tout à l'heure, le fait que aujourd'hui toutes les décisions de justice doivent intégrer la perspective de genre quand il s'agit d'une femme, eh bien il y a toujours des nœuds qui empêchent véritablement de punir et d'éviter ces assassinats de femmes.
Oui, la perspective des genres, c'est un sujet très intéressant parce qu'il est très présent dans le champ mexicain, et c'est normalement un impératif de l'imposer à tous les niveaux de gouvernement, dans tous les types de pouvoirs. Mais ça reste quand même un sujet, je crois, assez mal compris. Par exemple, ça peut être évident pour les personnes qui sont formées en genre ou qui s'intéressent aux causes des femmes. C'est par exemple le cas pour les féministes. Mais une personne qui pense dans le cadre des histoires de femmes et qui n'est pas donc solidaire à cet égard, va pas forcément être intéressée. Et surtout, il faut dire que quand on vit dans une culture patriarcale, c'est facile à intérioriser beaucoup de questions. Comme le mentionnait Descartes, par exemple.
Lorraine Descartes.
Et surtout, à Ciudad Juárez et à Chihuahua, il avait cette tendance à vouloir revictimiser les victimes du féminicide. Disons qu'elle avait cherché parce qu'elles sont sorties tard la nuit et sont voulu aller dans une soirée et sont allées voir leur partenaire de façon cachée, c'est-à-dire les sexualisations, ou disons que même elle pratiquait la prostitution. Soit c'était vrai, soit c'était pas vrai. Ce n'est pas ça qui est important, sinon qu'une femme prostituée a le droit aussi de vivre.
D'être en sécurité.
D'être en sécurité, d'être protégée par l'État. Donc on voit quand même une culture très machiste. Quand on voit des politiciens d'autorité vouloir s'excuser comme ça, laissant sous-entendre que les femmes prostituées valent moins que les femmes propres ou...
Jacqueline Prado-Prado, est-ce qu'il est intéressant est-ce qu'il y a une cartographie des violences faites aux femmes au Mexique? Est-ce qu'elles s'amenuisent quand on s'éloigne de la frontière avec les États-Unis, ou c'est plus compliqué que ça? Vous qui avez travaillé dans un autre État que celui de Ciudad Juárez ou Chihuahua, qui est votre État de naissance?
Bien sûr.
Nuevo León.
Il y a beaucoup de cartographies. C'est quand même un sujet très, très recherché. Même, je dirais, la statistique est plus recherchée que le combat en soi contre les violences sexistes et sexuelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les grands États, comme l'État de Mexico, Nuevo León, même Chihuahua, où on a beaucoup de données sur différents types de violences sexistes et sexuelles. Parce qu'il y a des parquets spécialisés dans ce type d'État. Au Sud, ce qui est intéressant, c'est qu'on a moins de féminicides, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de suicides de femmes.
Donc, déclaré comme tel, en fait, c'est ça, les morts déclarées comme suicide.
Oui, et il a beaucoup d'hypothèses, je ne connais pas la vraie parce que je ne me concentre pas au sud du pays, mais soit c'est des mauvaises enquêtes, parce qu'il a quand même une tendance d'autorité de vouloir juger la mort violente d'une femme comme un suicide, parce que l'enquête s'est finie comme ça, c'est plus rapide, c'est plus simple, et aussi c'est moins politiquement stigmatisant. Mais aussi, il y a le cas peut avoir des femmes qui tout à fait se suicident, mais on évalue leur suicide et c'est dans le continuum de la violence, comme quoi elles ont subi tellement de violences de la part de leur partenaire, leur famille, de la société, qu'elle finisse par se suicider. Donc on peut encore cataloguer ça comme une espèce de féminicide d'après certaines autrices.
Il y a des programmes aussi, alors il y a des programmes au Mexique destinés spécifiquement aux hommes, des jeunes garçons jusqu'aux adultes pour les sensibiliser. Est-ce que ça ne concerne que les hommes qui ont déjà fait la démonstration qu'ils étaient capables de violence ou tous les jeunes garçons dès l'école? Je ne sais pas, vous allez me le dire, mais je voulais aussi, il nous reste quelques instants, Lorraine Descartes, que vous nous parliez de ce refuge pour femmes que vous avez pu visiter pour un reportage pour l'hebdomadaire Le 1. Un refuge qui a de moins en moins de moyens, me semble-t-il, y compris sous Claudia Sheinbaum. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ce genre de refuge? Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont aujourd'hui ces refuges restent quand même salutaires pour les femmes de Ciudad Juárez?
Oui, ce refuge s'appelle Casa Amiga et c'est le premier refuge pour victimes de violences intrafamiliales pour les femmes et les enfants qui a été ouvert dans l'état de Chihuahua par Esther Chavez Cano, cette pionnière de la lutte contre les féminicides à Juárez dont j'ai parlé. Et c'est d'ailleurs dans ce lieu qu'il y a encore les archives du registre contre les féminicides, celui qui avait démarré en 93 dont j'ai parlé. Et je suis retournée il y a quelques jours revoir l'actuelle directrice du refuge qui s'appelle Lydia Cordero, puisque Esther Chavez Cado est à présent décédée. Et elle m'a annoncé une bonne nouvelle, puisque elle m'a dit qu'il venait d'inaugurer en fait une antenne du refuge dans le centre-ville de Juárez. Mmh. Parce que là, pour l'instant, Casa Amiga, le siège, c'est assez excentré, c'est dans un quartier assez populaire de Juárez. Donc, au contraire, pour le coup, là, il y avait une bonne nouvelle. Et aussi, je voudrais terminer en parlant de Voces Sin Eco, le groupe pionnier de lutte contre les féminicides qui viennent de ce quartier Lomas de Poleo, très excentré de Juárez dans les années 90. Il n'y avait pas l'électricité, l'eau courante, etc. quand les premières familles se sont mobilisées. Et c'est d'ailleurs elles, en fait, qui ont créé aussi le signe de la croix noire sur fond rose ou de la croix rose qui est devenue l'image d'Épinal de Juárez. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui doit être rappelé, le lien avec Voces Sin Eco. Et en fait, c'est aussi certaines des familles de Voces Sin Eco ont porté aussi plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Elles ont obtenu victoire en mars 2024, ce qui avait contraint en fait l'État mexicain à présenter ses excuses de manière officielle dans une cérémonie publique pour son incapacité à protéger la vie des victimes. Et il y a aussi une série de compensations symboliques, notamment le fait qu'il y a l'école, par exemple, de Lomas de Poleo qui a été créée par les familles du quartier, qui a pu être renommée Maria Sagrario en mémoire de cette victime assassinée en 98.
Donc il y a aussi eu quelques mesures d'ailleurs pour assurer la sécurité des femmes avant qu'un éventuel drame n'arrive, et je pense à au mandat de Claudia Sheinbaum quand elle était encore maire de Mexico. Elle avait mis en place cette mesure qui permettait aux femmes de quitter leur mari si elles se sentaient en insécurité, mais surtout cette loi obligeait les hommes violents à quitter eux-mêmes leur domicile. La loi l'agresseur s'en va, même s'il n'y avait aucune plainte contre lui et qu'il était propriétaire du domicile conjugal. Et sinon, pour les femmes pour qui ça n'arrivait pas, eh bien, il y a ces refuges qui existent encore, qui vous annoncent une bonne nouvelle, même si beaucoup de ces refuges disent aujourd'hui avoir besoin vraiment de moyens. Et vous racontez, Lorraine Descartes, les violentomètres placardés aux portes, un outil de prévention qui liste de façon graduelle tout ce qui doit éveiller des suspicions de violence, des manifestations de jalousie, aux menaces de mort. Pour conclure, Jacqueline Prado, face à l'incapacité l'État mexicain pour l'instant de garantir la sécurité des femmes, qu'est-ce qui se fait localement? Il y a des mécanismes qui existent dans certaines villes?
Oui, c'est très variable. Déjà, il y a à peine 14 États qui ont soit un parquet spécialisé de féminicide et délits de genre, avec des noms variables, soit des mécanismes semblables qui sont sous la juridiction des parquets et des justices locaux, parce qu'il y a le fédéral et les locaux. Et disons qu'ils ont beaucoup de mécanismes, incluant ce qu'on appelle le centre de justice pour les femmes. C'est un centre qui est chargé d'accueillir les femmes victimes des violences sexistes et sexuelles, de les orienter envers le type de plainte qu'elles peuvent porter, mais aussi le traitement psychologique. Et dans le cas d'avoir besoin d'un refuge, c'est aussi le cas. Donc elles reçoivent toute l'orientation. Je ne sais pas comment ça se passe partout. Je dirais qu'à Nouveau-Lyon, ça reste assez développé, à ce que j'ai pu voir.
L'État du nord du Mexique.
Et du coup, c'est ça, il a beaucoup de mécanismes, mais le plus grand problème, qu'on m'a toujours insisté qu'il y a, même dans les grands États riches, c'est le manque de budget. Les autorités locales ne prennent pas forcément ça au sérieux et destinent des budgets pour des causes qui sont plus facilement utilisables en campagne électorale.
Donc les habitants, habitantes des municipalités doivent parfois se débrouiller, mettre en place des dispositifs du type Lugar Seguro, lieu sûr, qui ce sont des commerces par exemple qui affichent sur leurs portes qu'ils peuvent accueillir une femme qui ne se sent pas en sécurité. Alors est-ce qu'ils sont en lien direct avec la police si ça tourne mal? J'imagine que c'est pas toujours le cas et qu'on manque aussi de moyens. Et puis il y a aussi des voisinages qui se constituent pour identifier des facteurs de risque dans des quartiers. Et ça n'existe pas partout, donc parfois des femmes se déplacent d'une ville à l'autre quand elles veulent solliciter de l'aide.
Allí es donde se encuentran nuestras ancestras. Esperando que des la vuelta y las puedas mirar. Esperando que te dejes de ellas acompañar. Esperando que sigas adelante, pero nunca dejando de mirar hacia atrás. Bye, bye, bye.
Llena de descoloniza tu belleza. Llena de descoloniza tu belleza.
Te siento ese volar, traspasando las fronteras,
es el lema,
llevando el mensaje que corre por tus venas, con la lucha marcada en tu conciencia. Renace tu esencia, despierta,
despierta.
Hablemos de nuestras abuelas, soportando cada mañana, cada madrugada, cada atardecer. El marido tiene sed y llegando a casa con toda violencia. Le va a sacar la mierda a tu abuela y las niñas se esconden. Después olvidar, mientras va creciendo te vas dando cuenta que tu belleza pareciera.
Nia Nia Decoloniza Tu Beleza, de la chanteuse chilienne Islena Antumalen, extrait de son album Nia Nia, paru en 2024, qu'on peut traduire par « ma sœur » en langue mapuche. Car au Chili non plus, on ne fait plus confiance aux politiques pour protéger les femmes. Le président de gauche, Gabriel Boric, non plus n'a pas été, non, pas plus que Claudia Sheinbaum, sur la question des violences faites aux femmes, en tout cas, le président progressiste qu'il prétendait devenir.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous nous engageons à promulguer la loi qui va faire entrer dans le code pénal la notion de suicide féminicidaire. Cela permettra de combler un vide dans la loi chilienne et cela donnera des droits spécifiques aux victimes de violences sexuelles pendant la durée des enquêtes pour les protéger de nouvelles agressions potentielles et préserver leur intimité, leur sécurité et leur dignité.
Suicide féminicidaire, dit-on au Chili, quand une femme a été poussée au suicide par un homme, une mesure prise au cours de son mandat par le président Gabriel Boric, que l'on vient d'entendre, élu dans le sillage des mobilisations sociales et féministes de 2018 et 2019. Mais le jeune président de gauche a aussi suscité beaucoup de déceptions chez ses électrices et il pourrait se voir succéder par ailleurs par un candidat d'extrême droite antiféministe, José Antonio Kast. Bonjour Nicole Forstenzer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, membre de l'unité mixte de recherche, développement et société de l'université Panthéon-Sorbonne. D'abord, des déceptions suscitées par le mandat de Gabriel Boric, lesquelles tiennent à des facteurs extérieurs à sa volonté, en particulier le rejet qu'a suscité au Parlement l'adoption d'une nouvelle constitution qui devait être très progressiste, et lesquelles tiennent plutôt à des promesses que lui n'a pas tenues.
Alors, en effet, déception, c'est le maître mot du bilan qu'on peut faire du mandat de Gabriel Boric, mais cette déception est à la hauteur des attentes qu'avait suscité son élection, notamment dans l'élan de la réforme constitutionnelle qui a succédé d'abord à ce Mayo Feminista, donc le grand soulèvement féministe au Chili de 2018. Qu'on a appelé le mai 2018, un peu en référence à mai 68, et comme un réveil féministe, et qui faisait écho, et qui était un peu précurseur à ce moment-là aussi, du Ni Una Menos, qui a secoué tout le continent latino-américain, et qui a eu des répercussions dans le MeToo au niveau international. Donc cette grande vague féministe du Mayo Feminista 2018, qui s'est prolongée dans l'estallido social, donc le grand soulèvement d'octobre 2019, qui a enclenché ce processus de réforme de la constitution chilienne, donc constitution de 1980, signée par le général Pinochet dans le cadre de la dictature civico-militaire, même si réformée depuis. Donc Gabriel Boric a été aussi élu dans la continuité de cette mobilisation féministe qui a vraiment fait la différence dans le deuxième tour de l'élection de 2021, qui était là encore contre José Antonio Kast, puisque les féministes étaient très mobilisées dans tout le soulèvement de l'octobre 2019 et dans la campagne pour la réforme de la Constitution, dans l'élection de l'Assemblée constituante, la première, et dans l'élection de Gabriel Boric. Donc une déception qui est vraiment à la hauteur des espoirs qu'avait suscité l'élection de Boric, qui avait une mission, c'était de mener à bon port cette réforme constitutionnelle qui a permis de voir naître une des constitutions les plus progressistes au monde, même si elle a malheureusement pas été votée. Et donc aujourd'hui, un bilan effectivement amer sur ce qui a pu être fait.
Il a pris mesures, Gabriel Boric. Oui, pardon. Il a pris quelques mesures comme Papa Chéri, Papito Corazon, qui oblige les pères à verser des pensions alimentaires, y compris en saisissant leurs biens ou leur épargne. Mais sur les statistiques montraient qu'avant cette mesure, 84% des hommes tenus de verser une pension alimentaire à leur ex-compagne ne le faisaient pas. Mais spécifiquement sur les violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'il a fait ?
Alors, spécifiquement sur les violences faites aux femmes, il a quand même fait passer une loi. Donc, il faut dire que Gabriel Boric n'avait pas de majorité parlementaire pendant toute la durée de son mandat. Donc, il a été fortement limité dans toutes ses mesures et notamment dans ce qui devait concrétiser ce fameux gouvernement féministe annoncé par ce fait de ne pas pouvoir ensuite faire voter les lois. Il y a notamment une proposition de loi de l'exécutif qui est devant le Congrès chilien en ce moment et depuis un moment pour l'interruption volontaire de grossesse. Mais pour revenir à la question des violences, puisque vous posiez la question, donc il a fait voter une loi qui est une loi de réparation pour les victimes de fémicides et qui contribue à concrétiser ou à rendre exécutoires les mesures de protection pour les femmes. Pour les femmes qui sont survivantes d'une tentative de féminicide, donc au Chili, on comptabilise non seulement les féminicides consommés en un sens, donc réussis, mais aussi les tentatives de féminicide et les féminicides frustrés. Il a mis en place un système de pension versée par l'État aux enfants survivants d'une femme tuée par son conjoint ou en tout cas victime de féminicide de genre. Et ça s'inscrit dans la continuité d'une loi de 2020 qui avait largement étendu la définition de féminicide pour ne plus la cantonner à la sphère intime et surtout pour ne plus exiger le lien de cohabitation, puisqu'avant le délit de féminicide typifié dans le droit chilien signifiait qu'il fallait qu'il y ait une cohabitation du couple. Donc depuis 2020, on a cette définition élargie. On a ce travail qui a été fait pour agir sur la réparation des victimes, sur leur protection en amont, et sur leurs enfants, mais effectivement, le nombre de tentatives de féminicide n'a fait que exploser au cours de ces 4 années.
Et il a aussi, Gabriel Boric, mais ce ne sont pas des lois qui ont concerné les femmes en particulier, même si en pratique elles les concernent davantage que les hommes. Ce sont des lois sociales, comme l'abaissement de la durée légale de travail à 40 heures par semaine au lieu de 45. On ne parle pas là vraiment spécifiquement des violences faites aux femmes, mais de tout ce qu'il a pu mettre en place qui correspondait à une attente par ailleurs d'organisations féministes. Il a augmenté le salaire minimum, mis en place des compensations aussi pour les retraites des femmes qui sont statistiques plus encline à travailler dans le secteur informel ou domestique. Alors, s'il a été porté au pouvoir, entre autres, par les organisations féministes, en tout cas un mouvement féministe, comment ces organisations ont-elles ou pas travaillé avec lui pendant son mandat, Nicole Forstenzer ?
Oui, alors ce que vous dites est tout à fait vrai et intéressant, c'est que finalement le gouvernement Boric n'a peut-être pas été au rendez-vous sur les questions de violence ou de légalisation de l'IVG, et c'était vraiment les demandes féministes centrales. Mais il y a eu des avancées très intéressantes qui portent plutôt sur la division sexuelle du travail et sur cette idée de mettre dans le débat public la question d'un travail de reproduction familiale et sociale qui est presque toujours assumé par les femmes et sans rémunération aucune. Et donc c'est dans cette lignée-là qu'on trouve les avancées les plus intéressantes sur ce que vous disiez, la réduction du temps de travail hebdomadaire, l'augmentation du salaire minimum, la réforme des retraites et la mise en place, ou en tout cas une volonté de mettre en place ce qu'ils ont appelé un système national de cuidados, donc de care, pour reprendre l'expression en anglais, de soins, et de mettre dans le débat la question de la reconnaissance et de la valorisation de ce travail de reproduction familiale et sociale. Alors, pour la partie qu'en est-il des mouvements féministes aujourd'hui, on est clairement, depuis la défaite du premier projet constitutionnel, dans un moment de basse intensité ou de reflux avec un sentiment de défaite, qui n'est pas qu'un sentiment, puisqu'il y a eu une défaite très très dure à digérer pour tout le mouvement social chilien, et dans le même temps, avec un gouvernement progressiste au pouvoir, le retour d'une des tensions constitutives du féminisme chilien que la chercheuse états-unienne Suzanne Franceschet présente comme la tension entre autonomie et intégration. Et c'est vraiment une des tensions constitutives du féminisme dans son rapport à la gauche, qu'on retrouve dans les mots d'une autre penseuse féministe chilienne, cette fois-ci Julieta Kilcote, qu'elle dépeint comme le tiraillement de la double militance. Et donc avec un gouvernement de gauche au pouvoir et cette défaite de la première tentative de réforme constitutionnelle, on est reparti dans un moment de grande fragmentation. En même temps qu'une nouvelle génération féministe accède à des postes dans l'académie, dans les cercles de pouvoir, dans l'administration publique, Il y a vraiment un moment de basse intensité et de remise en cause d'une certaine radicalité qu'on n'avait plus vue dans la rue pendant le Mayo Feminista et l'Estallido.
Alors là, Nicole Forstenzer, il nous reste vraiment un instant pour évoquer la campagne présidentielle en cours. Au deuxième tour s'affronteront d'abord un candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, qui en 89, lors du référendum sur le maintien au pouvoir du dictateur Pinochet, avait voté oui, et qui aujourd'hui dit qu'il veut revenir sur le droit à l'avortement au Chili, obtenu de hautes luttes pour les femmes en 2017, alors même que le pays avait été très précoce dans le droit à l'avortement en 1931. Et ce droit est aujourd'hui très limité. Lui veut encore le limiter, voire l'interdire. On passe les candidats qui ne sont pas au second tour, mais qui, pour l'un, a fanfaronné en disant qu'il ne payait pas sa pension alimentaire, et pour l'autre, a fait des remarques sur les viols de femmes tellement bêtes qu'il n'est pas nécessaire de les dire ici, ce serait lui faire trop d'honneur. Peut-être juste un mot sur Jeannette Jarrah, la candidate qui affrontera Kast au deuxième tour. Elle n'est pas seulement femme, mais aussi du Parti communiste chilien. Est-ce qu'elle porte un message féministe aujourd'hui ?
Alors, ce qui est intéressant dans cette campagne, peut-être regrettable pour nous activistes féministes, c'est qu'il y a une bien moindre présence de ces questions centrales pour les féministes, les questions de l'avortement ou des violences, puisque ces questions ont été construites dans le débat public chilien comme des questions très clivantes, autour desquelles se sont reconstituées le clivage gauche-droite dans la post-dictature, et qu'on appelle des questions morales, donc temas valóricos, en espagnol, puisque c'est vraiment des visions de société et de la famille, de la place des femmes dans la famille, dans la société, qui sont en jeu. Et donc vous parliez de José Antonio Kast, qui est bien connu de la mémoire féministe chilienne, puisqu'en 2007 il a été il a amené devant le tribunal constitutionnel chilien la légalisation de la pilule du lendemain.
Je vous prie de m'excuser, on arrive vraiment à la fin de cet entretien. C'est pour ça que je vous posais la question sur Jeannette Jarrah. Je suis absolument désolée de vous couper, mais il se trouve qu'on parlera de la présidentielle au Chili, alors plus largement dans tout son ensemble, lundi prochain dans l'émission. Donc je vous prie vraiment de m'excuser. Alors, on arrive à la...
Elle est allée et venue sur cette question de l'avortement. Donc comme je vous le disais, il y a un projet de loi présenté par le gouvernement Boric devant le Congrès pour une interruption volontaire de grossesse dans un délai de 14 semaines. Janet Rala est allée venue en disant que c'était une question donc morale, un thème valorico, que c'était assez clivant, alors que la campagne aujourd'hui au Chili porte beaucoup plus sur l'économie, le coût de la vie, la sécurité avec le narcotrafic et les migrations. Et donc, en ce sens, il y a une attente des féminismes chiliens de voir l'avortement reconnu comme un droit qui, pour l'instant, n'est pas passé dans le discours de Janet Rala. Et si vous me permettez, pour conclure, j'aimerais juste faire entendre le slogan du réseau chilien contre les violences contre les femmes qui dit « L'extrême droite nous prend nos droits ». Voilà.
L'extrême droite nous prend nos droits, et c'est aussi un réseau, j'imagine, enfin, il y en a beaucoup en tout cas au Chili qui disent que tous ceux qui se déclarent aujourd'hui sur la scène politique ouvertement pour le retour d'une dictature militaire, eh bien c'est aussi une forme de moteur pour les convictions, disons, masculinistes, de la même façon qu'au Mexique a été étudié le lien entre la façon qu'ont les gangs d'exhiber leur toute-puissance et les violences contre les femmes sur les corps des femmes. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous, Nicole Forstenzer. Vous avez écrit « Politique de genre et féminisme dans le Chili de la post-dictature chez l'Armatan ». Merci Jacqueline Prado-Prado, doctorante en sciences politiques à l'Université Sorbonne Nouvelle et chercheuse au CREDA. Et merci Lorraine Descartes, dont je rappelle, journaliste indépendante, je rappelle le titre du livre « Nos absentes, à l'origine des féminicides » aux éditions du Seuil. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Estelle Kammerer, vous nous emmenez aujourd'hui au Nigeria où une cinquantaine d'enfants ont pu retrouver leur famille quelques jours après l'un des plus gros enlèvements dans une école catholique.
50 enfants sur les 300 enlevés vendredi dernier dans une école de l'État de Niger, au Nigeria. La BBC parle de l'un des pires enlèvements de masse qu'ait connu le pays et surpasse même celui de Chibok en 2014. Pour rappel, le groupe djihadiste Boko Haram avait kidnappé 276 jeunes filles dans leur école. Une centaine d'entre elles sont toujours portées disparues. L'attaque de vendredi ravive donc de mauvais souvenirs. Elle se déroule aussi dans un contexte particulier où les enlèvements se multiplient. C'est la troisième attaque en une semaine. Lundi dernier, 24 élèves ont été kidnappés dans un lycée pour filles dans l'état voisin de Kebbi, raconte The Guardian Nigeria. Le gouvernement de l'état de Kebbi et celui de Niger ont ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires, publics et privés, après l'attaque de vendredi, explique le quotidien nigérian. Mais le quotidien rappelle aussi un autre contexte, celui des menaces d'intervention militaire de la part de Donald Trump. Le président américain assure que les chrétiens du Nigeria sont victimes d'un génocide. Selon la BBC, il a déclaré qu'il enverrait des troupes armes à la main si le gouvernement continuait de permettre le meurtre de chrétiens, selon ses mots. Pour le gouvernement nigérian, c'est une grossière déformation de la réalité. Les terroristes attaquent tous ceux qui rejettent leur idéologie meurtrière, musulmans, chrétiens et personnes sans confession, explique un responsable cité par le média britannique. Et pour le moment, aucune de ces attaques n'a été revendiquée.
Donald Trump qui assure aussi que les Sud-Africains blancs sont victimes de persécutions.
D'où l'absence des États-Unis au G20 qui s'est déroulé ce week-end, rappelle la BBC. En juin dernier, le président américain avait assuré que les Afrikaners, les Sud-Africains blancs, étaient victimes d'un génocide. Dans un article publié avant l'été, le média britannique a balayé les affirmations de Donald Trump qui découlent des discours d'extrême droite, selon le média. Aucun des partis politiques sud-africains, y compris ceux qui représentent les Afrikaners et la communauté blanche en général, ne parle de génocide, souligne la BBC. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, avait dû se rendre à la Maison-Blanche pour clarifier la situation. Donald Trump avait terminé la rencontre en déclarant qu'il ne se rendrait pas au G20. Mais l'Afrique du Sud ne s'est pas laissée intimider, affirme le quotidien sud-africain The Citizen. Pour ce premier sommet sur le continent africain, Cyril Ramaphosa a même surpris les autres dirigeants en faisant adopter une déclaration, non pas à la fin du G20, mais au premier jour. Une manière d'éviter tout revirement, assure le quotidien en ligne Daily Maverick. Le texte insiste sur le dérèglement climatique et la protection de l'approvisionnement en minerais stratégiques, en référence à la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les dirigeants ont aussi appelé à une paix juste et durable en Ukraine, au Soudan et dans les territoires occupés palestiniens. Le poids de la dette pour les pays pauvres a également été abordé. Théo Nisling, un analyste politique de l'Université de l'État libre, interviewé par The Citizen, explique que ce sommet était basé sur la lutte contre les inégalités dans l'esprit d'Ubuntu, philosophie sud-africaine sud-africaine, souvent traduite par « je suis parce que nous sommes ». Elle souligne l'interdépendance des individus au sein de la communauté. Le quotidien sud-africain affirme aussi que cette déclaration illustre de grands changements dans la diplomatie mondiale, notamment par son adoption malgré les pressions des États-Unis. Le journal se demande même dans le titre « Les dirigeants mondiaux ont-ils tourné le dos à Donald Trump ?» À voir si les tensions se seront apaisées avant le prochain G20 en 2026 qui doit se dérouler sur le terrain de golf du président américain en Floride.
Et en Afrique du Sud, l'ONG Sud-African Women for Change a organisé de grands rassemblements vendredi dans une quinzaine de villes pour interpeller les dirigeants sur les féminicides. Pour faire le lien avec notre émission de ce jour, elles étaient habillées en noir pour symboliser le deuil et elles se sont allongées au sol pendant 15 minutes. 15 minutes pour les 15 femmes tuées tous les jours dans le pays à cause des violences sexistes et sexuelles. C'est à lire sur le site de votre revue de presse internationale. Estelle Kammerer, merci beaucoup.